florissante, on en a parlé tout à l'heure, florissante, les bourses mondiales, les indices sont au plus haut, Wall Street qui a même franchi vendredi dernier la barre des 15 000 points, c'est un record, et un contraste saisissant surtout avec la morosité économique ambiante, la zone euro en panne de croissance, les chiffres du chômage qui atteignent des niveaux dramatiques dans plusieurs pays d'Europe. Comment expliquer cette dichotomie? La bourse est-elle saisie d'une exubérance irrationnelle, pour reprendre la formule d'Alan Greenspan, l'ancien patron de la réserve fédérale américaine? Pour en parler, le plaisir d'accueillir le vice-directeur de l'Institut Banque et Finance de l'Université de Zurich, Marc Chesnais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Zurich ce matin jusqu'à 8h, on vous en remercie. Cette envolée des indices boursiers, est-ce que cela répond à une logique économique ou est-ce qu'on est effectivement dans l'irrationnel total?
Non, cela traduit de plus en plus la déconnexion entre, d'une part, l'économie et d'autre part, la sphère financière, la bourse. C'est un véritable problème. Les bourses se portent très bien et en même temps, comme vous l'avez mentionné, le chômage est très élevé. Vous avez des dizaines de millions de chômeurs en plus depuis le début de la crise financière. Vous avez, on s'attend en 2013 à une contraction du PIB. En Europe, la communauté européenne, donc les chiffres sont moroses, sont mauvais, et la bourse se porte bien. Pourquoi? Parce que les banques centrales injectent des milliards de dollars, d'euros, de francs suisses régulièrement dans la sphère financière en rachetant des obligations. Donc c'est cette déconnexion qui pose problème. Je vous cite un chiffre, la bourse d'Athènes, la bourse grecque, a augmenté d'environ 33% en 2012. Est-ce que les perspectives sont bonnes en Grèce? C'est une plaisanterie.
Marc Chesnais, on a eu une crise en 2009 qui n'est pas finie et qui s'amplifie même dans plusieurs pays. On a eu des politiques qui n'ont cessé de dire, dont François Hollande le premier, mon ennemi c'est la finance, et la bourse n'a jamais autant flambé. Alors quid de la crise? Elle n'a servi à rien, il n'y a pas de crise. Comment vous expliquez tout ça?
On n'a pas tiré les conclusions. Enfin, les responsables politiques n'ont pas tiré les véritables conclusions, qu'ils soient conservateurs ou socialistes. Donc, il fallait prendre de véritables mesures. Elles n'ont pas été prises. Il faut remettre la sphère financière au service de l'économie. Pour faire simple, il faut que la bourse, il faut que les banques financent les investissements des entreprises. Les entreprises se financent de moins en moins à la bourse au jour d'aujourd'hui. J'ai eu accès aux chiffres français. Je ne l'ai pas en ce qui concerne la Suisse, malheureusement. Les entreprises françaises se financent à hauteur de 5,4% de leurs besoins à la bourse. C'est ridiculement faible. À quoi sert la bourse au jour d'aujourd'hui? 5,4%. C'est ce qu'apprennent nos étudiants à l'université. La bourse est censée être là pour permettre aux entreprises de se financer.
Donc c'est un milieu qui tourne sur lui-même. C'est un milieu qui continue de plus en plus de tourner sur lui-même, qui est déconnecté de sa véritable fonction économique. Vous dites 5,4%. En France, les entreprises se financent à 5,4% à la bourse. Faudrait quel chiffre pour que ça... Les engrenages se reconnectent.
Pour vous donner un ordre d'idée, en 2001, c'était encore 27%. Ah oui. Et en 2011, c'est passé à 5,4. Donc, bon, si vous me disiez 30-40%, ça serait raisonnable. 5,4, c'est ridiculement faible.
Cela dit, moi, je vous écoute. Je suis un auditeur, Marc Chesnais. J'ai très envie de boursicoter.
Je vous souhaite bonne chance. Écoutez,
c'est risqué, ça reste très risqué.
C'est vrai que c'est extrêmement risqué pour vous et moi, dans le sens où il faut savoir que la grande majorité des transactions s'effectuent à la milliseconde. Aux États-Unis, 70% des transactions s'effectuent à la milliseconde. En Europe, c'est à peu près 50%. Donc lorsque vous ou moi, nous cherchons à boursicoter, nous ne fonctionnons pas à la milliseconde, et donc nous fonctionnons plus lentement que d'autres. À partir de là, en moyenne, nous allons perdre. Donc la bourse devient de plus en plus un casino, mais quand vous allez au casino, vous connaissez les règles, vous savez quelles sont les probabilités de gagner ou de perdre, les choses sont assez claires. Là, lorsque vous allez à la bourse, vous ne connaissez pas vraiment les règles, et donc en moyenne, vous allez perdre. Ça ne signifie pas que vous n'allez pas gagner, bien sûr, vous pouvez aussi gagner, mais en moyenne, on risque de perdre. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on est moins incité à investir. Donc vous avez de gros acteurs, par contre, qui activent la bourse. Des grosses banques, des hedge funds, des fonds spéculatifs.
Et des fonds souverains aussi.
Oui, effectivement.
Et des fonds souverains comme Singapour. Marc Chesnais, vous connaissez très bien les mathématiques financières. La crise, celle des subprimes, celle de 2008-2009, a mis en évidence ou a même révélé qu'elles existaient, ces mathématiques extraordinairement compliquées, que d'ailleurs certains spécialistes ne comprennent pas. Est-ce qu'on a simplifié ça depuis? Est-ce qu'il y a eu des garde-fous en matière de mathématiques financières, celles sur lesquelles se basent les produits financiers compliqués, les hedge funds notamment, qu'on chérissait beaucoup du côté de Genève? Est-ce qu'on a simplifié tout ça?
Écoutez, les modèles continuent à se développer avec effectivement beaucoup de mathématiques. Les mathématiques peuvent être utiles. Simplement, il faut que les hypothèses des modèles soient réalistes. Donc là, vous avez effectivement une sphère qui est de plus en plus déconnectée au niveau aussi, au niveau théorique. Vous avez de beaux modèles, mais les hypothèses peuvent ne pas du tout tenir la route. Et donc ça, c'est un véritable problème.
Donc ça aussi n'a pas du tout été résolu depuis la crise. Au contraire, ça s'est même péjoré.
Vous voulez dire au niveau universitaire ou bien au niveau pratique?
Au niveau pratique de ce qui se passe quand on achète un produit financier.
Au niveau pratique, non, il y a une grande complexité des produits, ça continue. Je vois la publicité régulièrement pour un certain nombre de produits toxiques dans la NZZ, qui sont offerts par des grandes banques, donc des produits très complexes. Donc les investisseurs ne comprennent rarement ce qu'ils achètent d'ailleurs. On voit un coupon très élevé, 10-12%, donc ça attire. Et puis il y a une petite note en bas de page qui indique que effectivement, dans telle ou telle circonstance, le capital peut être perdu. Vous pouvez perdre 20, 30, 40, 50% de votre capital. Donc, c'est assez inquiétant quand on sait que certaines caisses de pension sont susceptibles d'acheter ces produits complexes, risqués et toxiques. Mais ça, c'est un vrai danger. Ça n'a pas vraiment évolué.
On va vers quoi, j'allais dire, au niveau macroéconomique, politique, rien qu'en Europe. L'économie casino ne s'est jamais aussi bien portée. Les mathématiques financières non plus. Mais qu'est-ce qui nous attend, là? C'est assez apocalyptique comme discours.
Eh bien, nous sommes dans une impasse tant que nous ne remettrons pas, encore une fois, la finance au service de l'économie, tant que la finance ne jouera pas son rôle.
Mais qu'est-ce qui pourra créer cet électrochoc si ce n'est une crise telle qu'on vient de la vivre?
On l'a connue, la crise. Maintenant, donc on sait à quoi on est confronté depuis un certain nombre d'années. Maintenant, nous avons besoin de responsables politiques courageux et conscients des problèmes. On sait quel type de mesures il faudrait prendre. Par exemple, les banques qui sont too big to fail représentent un danger pour leurs économies respectives, pour être clair. Donc, des banques comme UBS ou Crédit Suisse, par exemple, pour la Suisse, ont des tailles bien trop importantes.
Mais on n'a pas diminué leur taille. Là non plus, rien n'a été fait.
Non, voilà. Donc là, c'est un exemple. Il faudrait diminuer leur taille. Second exemple, il faudrait séparer les banques de dépôt des banques d'investissement.
Ça non plus n'a pas été fait.
Non, pas du tout. Les banques qui veulent jouer au casino avec l'argent des clients doivent être séparées, doivent avoir une taille plus limitée, ne doivent pas être too big to fail. Troisième exemple, si vous me le permettez, dans toutes les industries, vous avez un processus de certification. L'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile ne peut pas mettre sur le marché d'emblée un produit avant qu'il ne soit testé. Il y a une exception, la sphère financière. On peut encore aujourd'hui mettre sur le marché des produits complexes, toxiques. Non, il faudrait mettre fin à cela. Il faudrait un processus de certification en Suisse, au
niveau
international.
Des normes ISO pour la finance.
En quelque sorte, il faudrait que les grandes banques expliquent que les nouveaux produits qu'elles souhaitent mettre sur le marché sont utiles à un certain nombre de clients, sont utiles à l'économie. Et si oui, très bien. Sinon, ces produits n'ont rien à faire sur le marché.
Et le mot éthique, Marc Chesnais, ça aussi, Dieu sait qu'on l'a balancé, pardonnez-moi l'expression, depuis la crise, réintroduire de l'éthique dans la finance. On s'est gargarisé avec ça pendant des années, pendant des mois. Où est-elle, cette éthique?
Bon, ça ne va pas suffisamment loin. Moi, je donne pas de cours d'éthique. J'essaie de parler de la responsabilité qu'on a lorsqu'on est trader, parce que mes futurs étudiants rêvent de devenir trader. Mais il faut que le rêve aille au-delà de s'acheter une Porsche et de devenir très riche. Il faut que les étudiants aient conscience de leur valeur. D'abord, qu'ils comprennent que les valeurs ne sont pas toutes financières. Et secondo, qu'ils comprennent que les valeurs les plus importantes ne sont pas financières.
Ça passe, ce message? Est-ce que ce message passe auprès de vos étudiants qui adorent rouler en voiture de sport?
Eh bien, pour une minorité, oui, seulement pour une minorité. Mais au moins, il faut qu'ils se posent un certain nombre de questions avant de commencer leur vie professionnelle, parce qu'après ça, ça risque d'être trop tard. Donc, il y a des tentatives pour aller dans les bonnes directions au niveau universitaire, mais ça n'est pas suffisant au jour d'aujourd'hui. Il faudrait une vraie politique au niveau soit cantonal, soit au niveau suisse, pour insuffler ce type de cours, de réflexion au niveau des cours. Il n'y a pas d'incitation au jour d'aujourd'hui pour vraiment aller dans cette direction.
Quelque part, est-ce que vous êtes un peu dépité? Vous dites seule une minorité pense comme ça, il va avec pas mal d'éthique, les autres ne veulent que faire de l'argent. Est-ce que c'est pas là le ferment du mal, déjà à ce niveau-là, quand on est étudiant?
Oui, mais bon, il faudrait insister, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait plus de cours, il faudrait pas qu'il y en ait un ou deux, mais il faudrait que ce soit une véritable politique universitaire, où on dise, voilà, vous avez un cursus, ces cours sont obligatoires, vous devez mener une réflexion avant de travailler dans une banque ou dans une salle de marché, pour savoir quelles sont vos valeurs, ce que vous ferez, ce que vous ne ferez pas, etc., etc. Donc, il faudrait qu'il y ait une stratégie qui soit mise en place par le biais des universités, et là, ça serait pas seulement une minorité d'étudiants qui seraient concernés, mais du moins, je l'espère, une majorité. Parce que si les étudiants pense que les professeurs ne prennent pas cela suffisamment au sérieux. Il n'y a pas de raison qu'eux-mêmes prennent ces sujets au sérieux, si vous voulez. Donc il faut que ça vienne en amont, la structure universitaire elle-même.
Oui, la valeur d'exemple. Marc Chenet, vous êtes professeur, vous êtes vice-directeur de l'Institut Banque et Finance de l'Université de Zurich. On va parcourir ensemble la presse, ce roman des Alémaniques en compagnie de Maurice Doucasse et Patrick Lefort. Certains sujets vont nous ramener au monde économique, au monde financier. On va commencer avec l'art suisse. Tiens, Patrick Lefort, l'art suisse qui reste très peu sensible aux tendances du marché global, même lui devient un secteur refuge. C'est un constat de l'AGFI.
Christie's organise une vente d'art suisse dans 3 semaines à Zurich. Dans les lots proposés, 2 paysages de Ferdinand Hodler, des kunoa miettes, Alice Bailly, quelques tinglis, dont une machine de sa période japonaise. Mais dans les fourchettes de prix, pas d'envolée spectaculaire. Il faut dire que le catalogue ne comporte aucun tableau de Félix Vallotton, l'une des valeurs sûres de l'art suisse. Aucune œuvre majeure d'Albert Anker n'est présente non plus dans la collection. Pour le directeur du département art suisse de Christie's, cela signifie sans aucun doute la fin de la flambée pour cet artiste, non pas en raison d'une chute de sa popularité, mais à cause de la raréfaction de ses œuvres les plus recherchées, à savoir des portraits de jeunes filles paysannes. En résumé, dit la GFI, l'art suisse reste à l'écart des tendances du marché globalisé et n'apparaît toujours pas comme un thème d'investissement.
Professeur de finance, est-ce que vous conseilleriez d'investir dans l'art suisse, a fortiori, Marc Chenet?
Écoutez, si on compare la bourse au marché de l'art, on se doit de remarquer que le marché de l'art possède beaucoup moins les caractéristiques d'un casino que la bourse. Donc ça permet, pour ceux qui en ont les moyens, d'investir dans un domaine où les fondamentaux sont plus clairs, on connaît les artistes, il y a des fourchettes de prix, il y a plus de sécurité, si vous voulez. Donc ça a tout à fait un sens, encore une fois, pour ceux qui en ont les moyens, d'aller dans cette direction, parce qu'on a des repères, si vous voulez, qu'on a en grande partie perdu avec la bourse. Ces repères existent dans le marché de l'art, mais comme dans d'autres marchés, tout ce qui touche le luxe, etc., il y a des repères, et à partir de là, ça permet aux investisseurs de voir un peu plus clair, oui.
Des artistes comme Damien Hirst, par exemple, c'est celui qui me vient à l'esprit, qui vend des offres 15 millions. Est-ce que c'est encore un repère, ça? Ou est-ce qu'on n'est pas là aussi dans l'irrationnel le plus total?
Oui, l'irrationnel, bien sûr, joue un rôle dans ce marché, les anticipations. Mais il n'empêche qu'on a tout de même certains points de repère qui jouent un rôle. En tout cas, certains pensent les avoir et ça leur donne des incitations d'investir dans ce marché.
Alors, puisqu'on parle de l'art, Maurice Doucasse, ça c'est dans la presse alémanique, on nous explique que pour la première fois, un artiste allemand très connu est identifié comme un fraudeur du fisc.
Et cet artiste est le peintre Georg Baselitz, qui est âgé de 75 ans. Nous annonce ce matin le Blick. Georg Baselitz est actuellement l'un des peintres allemands les plus cotés. L'une de ses œuvres, intitulée Le soldat, a changé de main l'année dernière pour la somme de 3,2 millions de francs. Et il semblerait que le nom de Georg Baselitz figurait sur un CD qui avait été acheté au cours de l'été dernier par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Des données qui venaient vraisemblablement de l'UBS, mais le numéro 1 bancaire suisse refuse pour l'instant de s'exprimer à ce sujet. De son côté, Baselitz fait savoir par le biais de sa secrétaire qu'il n'a jamais soustrait des sommes qui se chiffrent en millions, mais le Blick précise bien aujourd'hui qu'il ne dément pas cette information de fraude fiscale. En tous les cas, Georg Baselitz ne semble pas être un artiste maudit dans le besoin. Sa villa de verre située sur les bords du lac de Ammersee a été construite par les architectes suisses Herzog et Demeron.
Il a eu cette chance-là, Maurice Doucasse. Marc Chenet, au-delà du cas de cet artiste, pour l'instant rien n'est prouvé ni démenti d'ailleurs. Comprenez-vous le comportement de certains lenders allemands qui achètent à coups de millions des CD de données volées? Est-ce que c'est une juste cause?
Écoutez, vu la situation financière actuelle, donc les États sont sous tension, on connaît leur situation en ce qui concerne les déficits, donc ce n'est pas étonnant que l'Allemagne et que d'autres pays, la France, puissent être intéressés par ce type de CD. Donc il y a une véritable guerre qui est mise en place pour éviter qu'il y ait trop de fraude. Alors maintenant, avec ce qui se passe avec Wikileaks, avec les CD, effectivement, à mon avis, ce n'est que le début d'une longue liste de noms qui va apparaître peu à peu en Allemagne, en France. Ça a déjà commencé. Et ça va mettre sous pression un ensemble de personnes qui pensaient pouvoir échapper aux règles de leur propre pays.
Vous avez peut-être entendu notre sujet diffusé dans le journal de 7h tout à l'heure, PostFinance, qui ferme les comptes de certains étrangers en Suisse, notamment des Français. Il s'est aperçu que ces comptes avaient été mis au nom de leurs enfants et pour échapper au fisc. Vous connaissiez cette pratique?
Enfin, pas pour PostFinance, mais c'est une pratique qui existe, malheureusement. Oui. et d'autres exemples.
Et PostFinance a bien fait de procéder de la sorte ?
Oui, je trouve, oui. Je trouve, il faut rétablir une réputation, il faut que les choses soient claires, oui. C'est très bien, oui.
C'est-à-dire que c'est une pratique connue de transférer de l'argent sur le compte de nos enfants pour échapper
en
au fisc.
Certains le font, oui, oui. C'est ça, les enfants, la femme, les frères, oui. Ce sont des pratiques assez simples à mettre en place. Oui.
Est-ce qu'elles sont légales ou illégales ? Ou est-ce que la frontière est floue ?
Écoutez, ne pas déclarer les sommes perçues au fisc est illégal, oui. Donc, à partir de là, si on utilise les enfants, les comptes de la femme, ça pose de véritables problèmes. Oui. C'est illégal, oui.
On continue dans la presse alémanique avec vous, Maurice Doucas. On parlait de l'Allemagne, justement. On nous parle ce matin de l'humoriste alémanique Victor Giacobbo, qui est très connu outre Sarine, un peu moins ici. Il vient de faire un film sur les rapports entre les Suisses et les Allemands.
Et Victor Giacobbo pense que les deux voisins ont des rapports compliqués parce que, justement, ils sont trop semblables. Dans le Bund, il explique justement que les Suisses sont en fait des Allemands. Pour lui, les Suisses ont un sentiment d'infériorité, mais en même temps, une fierté nationale très marquée. Mais le sentiment des Suisses par rapport à leurs grands voisins est très ambigu, puisque nous appartenons, dit-il, au monde allemand, mais on tient à s'en détacher. Victor Giacobbo explique aussi que ce qui lui plaît chez les Allemands, c'est notamment la franchise des discussions, mais en Suisse, ce qui le séduit, c'est la politique de la concordance entre personnalités de différents bords politiques. En conclusion, Victor Giacobbo explique que finalement, nous sommes très semblables, travailleurs, ordonnés, et petits bourgeois, tout ce que l'on dit d'autre n'est que du folklore.
Marc Chenet, vous avez fait vos études à Paris, puis à Genève, vous êtes à Zurich, donc vous travaillez évidemment avec des collègues allemands, il y a beaucoup de professeurs allemands dans les universités suisses. Quelle est votre vision du grand voisin ? Est-elle celle de l'humoriste Giacobbo ? Finalement, on est pareil.
Oui, enfin, c'est assez juste, ce sont des rapports ambigus, effectivement. Le thème est éternel à Zurich, parce que vous avez énormément d'Allemands qui travaillent en ville, à l'université aussi. Bon, à l'université, les choses se déroulent bien, mais si vous lisez la presse à Zurich, il y a tout de même des tensions qui apparaissent à certains moments, puis ça se calme, puis ça recommence. Effectivement, les cultures sont proches, mais en même temps, les Suisses-Allemands cherchent à se différencier des Allemands, ne serait-ce que de par la langue aussi. Les Allemands ont souvent du mal à comprendre le Zurich-Deutsch. Donc, il y a des rapports un peu compliqués, mais bon, globalement, c'est vrai que ça se passe bien. La manière de travailler est à tout de même assez proche, comme cela a été mentionné. L'organisation aussi est très semblable, donc il y a tout de même beaucoup de points communs.
C'est pas vos ennemis, les professeurs allemands, alors ?
Non, il n'y a aucune raison.
Quand la Suisse active la clause de sauvegarde vis-à-vis de tous les travailleurs de l'Union européenne, comme ça a été fait il y a quelques jours, comment vous réagissez ?
On peut comprendre les raisons invoquées par la Suisse. Effectivement, la Suisse n'a pas toujours été satisfaite de ses rapports avec l'Union européenne. Donc, à un certain moment, elle se doit aussi de réagir. Bon, j'imagine que cela sera temporaire. Oui. Il faut l'espérer. Oui,
c'est temporaire, c'est pour une année. Vous êtes français d'origine, Marc Chenet. La crise ne touche pas que la gauche française au pouvoir, Patrick Lefort. L'UMP aussi est en mauvaise posture. C'est dans la Liberté et dans le Courrier.
La première année du quinquennat de François Hollande est déjà terminée. Le Parti Socialiste est critiqué sur sa droite et sur sa gauche, sur son bilan intermédiaire. Mais à bien y regarder, l'UMP n'a pas non plus vécu une année très glorieuse, analyse le correspondant à Paris des deux journaux. Le principal parti de droite est en crise de leadership. Nicolas Sarkozy est contraint d'attendre 2016 pour jauger ses chances et éventuellement confirmer son intention de revenir en politique. En attendant, la droite est donc forcée de ronger son frein. Ce n'est pas tout. Sans leader incontesté, l'UMP nage en pleine confusion. Dimanche, on a vu les copéistes défiler contre le mariage gay, alors que les fillonistes dénonçaient l'appel à manifester contre une loi votée par le Parlement. Du côté financier, la trésorerie du parti est presque à sec. Et comme si cela ne suffisait pas, la crise morale a touché la droite. Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, Éric Woerth, plusieurs ténors ou ex-ténors sont poursuivis en justice ou menacés de l'être.
Vous suivez encore la politique française, Marc Chenet ?
Oui, je la suis. Oui.
Quel est votre regard sur ce qui se passe, gauche et droite d'ailleurs ?
Bon, ils ont un certain nombre de points communs. La gauche comme la droite est frappée par des scandales. Vous avez eu le cas Cahuzac pour le Parti Socialiste, vous avez eu le cas Guéant pour la droite. La gauche comme la droite a finalement eu beaucoup de mal à gérer la crise. Les politiques sont semblables. Ça crée un mécontentement au niveau de la population parce qu'elle ne voit pas de perspective. Maintenant, en ce qui concerne l'UMP, effectivement, il y a une crise de leadership. Les différences ne sont pas fondamentales entre Copé et Fillon et pourtant, la bataille a été profonde. Elle le reste. M. Sarkozy est susceptible de revenir. Bon, très bien, ce sont des batailles de chefs, mais y a pas, on aimerait comprendre ce en quoi les programmes qu'ils sont susceptibles de proposer pourront être utiles pour l'économie française. Et ça, on ne le voit pas encore clairement, que ce soit pour la gauche ou que ce soit pour la droite.
D'ailleurs. Est-ce qu'on peut mener une véritable politique de gauche aujourd'hui en France ?
Il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, pas seulement en France, mais de manière internationale, ce sont les marchés financiers qui décident. Donc on peut voter à gauche, à droite, conservateur, socialiste, finalement, les marchés financiers vont imposer certains types de mesures. Et cela, c'est un vrai danger pour la démocratie. Des lobbies sont à l'œuvre pour veiller à ce que des réformes éventuelles soient vidées de leur contenu. Donc les gouvernements ont au jour d'aujourd'hui une marge de manœuvre limitée, parce qu'ils acceptent cela, et donc ils touchent des sujets de société. Vous avez le mariage gay en France, différents thèmes, mais les thèmes économiques, finalement, ils appliquent les mesures proposées par les marchés financiers. Et ça, c'est un problème. Hein.
Voilà, ce ne sont plus les politiques qui gouvernent le monde, on s'en doutait un peu. Marc Chesnais, merci d'avoir été notre invité en direct de Zurich. Vous êtes vice-directeur de l'Institut Banque et Finances de l'Université de Zurich. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.